Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les mecs que je veux ken. Aujourd'hui, nous recevons l'écrivaine Titiou Lecoq à l'occasion de la sortie de son livre « Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes ». On a parlé de la genèse de cet ouvrage qui découle du podcast de Titiou « Rends l'argent » et qui est la suite logique de son livre sur la charge mentale « Libérer, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale » où Titiou s'était plus consacré à la question du manque de temps des femmes que du manque d'argent. On a décrypté le stéréotype misogyne de la femme vénale, mais parlé aussi des concessions que font les femmes sur leur salaire, comme choisir des jobs proche de l'école des enfants. On a étudié l'exemple de la mère de Titiou, symptomatique d'une génération de femmes divorcées qui ont refusé la pension par fierté d'être indépendante, de pouvoir se débrouiller toute seule. Et on voit comment ça les a appauvries. On a débattu sur la question de qui doit payer au premier date. On s'est questionné sur la place de l'argent dans l'amitié et dans la famille, entre parents et enfants. Jusqu'à quel âge subvenir aux besoins financiers d'un enfant? Combien faut-il faire de cadeaux? J'espère que vous passerez un bon moment en nous écoutant.
Déjeuner bien équilibré.
Ah ouais, tu parles. Alors, je t'ai écrit un petit poème, Titiou.
Non, c'est pas
si.
Vrai. Oh, j'adore.
Voilà. Titiou Lecoq écrit bien. C'est la première chose qui frappe à la lecture de ses deux derniers essais, Le couple et l'argent et Les grandes oubliées. L'envie de tourner la page, la reconnaissance envers l'autrice, de si bien vulgariser, si précisément et avec autant d'humour. On ne se sent pas conne de pas savoir. C'est quasi une écriture horizontale où l'on n'est pas dominé par l'essayiste. Au contraire, elle nous fait un clin d'œil, partage son expérience, découvre, s'étonne et se révolte en même temps que nous. Et puis à tous ceux qui voudraient encore assimiler féminisme et agressivité, sécheresse, il faut vraiment offrir les livres de Titiou Lecoq, où le bon sens éclate sans équivoque, on ne peut que se rendre à l'évidence des injustices. Or, si un travail de réinterprétation historique est fait dans Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes, pour donner un éclairage nouveau, dans Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes, Titiou va jusqu'à analyser le comportement des femmes et notamment le syndrome de l'infirmière, comme le décrit Victoire Toyon dans l'un des épisodes du Cœur sur la table, c'est-à-dire cette capacité au don, au sacrifice. Ça m'a vraiment parlé. J'ai vu ma mère le faire, je l'ai fait par le passé et serais totalement apte, hélas, à le reproduire aujourd'hui. Donner ma richesse à l'autre. Comment t'es venue l'envie d'écrire sur ce sujet, Titiou? Est-ce la suite logique de Délivrer, ton livre sur la répartition des tâches ménagères dans le couple et la charge mentale qui incombe aux femmes? Peux-tu nous parler de la création de ton blog Girls and Geek, qui t'a certainement permis de développer ton style, cette plume à la première personne, sur des années? De tes premières aventures à ta vie de mère, une vie d'écriture et de recherche, de regard vers soi et les autres. Merci de venir dans mon podcast.
Merci à toi.
Est-ce que t'es d'accord avec ce côté parce que ce que je trouve fort dans ton livre sur le couple et l'argent, c'est que ça va sur une analyse assez psychologique finalement aussi des femmes alors c'est sociétal, mais comment est-ce que tu t'es dit ok, je vais oser en fait aller décrire ça, ce comportement typiquement féminin qui est de se sacrifier, de donner à l'autre, de lui dire viens habiter chez moi.
Et puis je ferai le ménage. Voilà. Pas toi. En fait, c'est venu quand j'ai commencé à travailler sur le sujet de l'argent. En fait, j'avais quand même écrit Libérer, qui est tout un livre dont je suis très contente. Hein, vraiment, il est super. Il y a encore des lectrices qui me disent... Parce qu'en fait, je pense qu'à chaque fois qu'une femme vient d'avoir des enfants, il y a des copines pour lui offrir ce livre-là. Et donc, elles m'écrivent en disant « Ah, ça me fait tellement bien de le lire ». Mais en fait, dans Libérer, j'avais l'impression d'avoir traité l'intégralité du sujet des tâches domestiques et parentales. Et en fait, dans tout le livre, dans Libérer, il n'y a pas une seule fois où je parle d'argent. Et c'est une espèce de point d'angle aveugle. Et je pense maintenant, rétrospectivement, que j'étais mais vraiment épuisée, beaucoup plus épuisée que je ne pensais l'être à l'époque. Mmh. Et que du coup, ça se sentait parce que ma question était celle du temps. Mmh. J'étais obsédée par « je n'ai pas le temps, je ne m'en sors pas et je suis noyée ». Et quand on est noyée, on ne peut pas prendre du recul et se dire « ah, au fait, au niveau de la thune, comment ça se passe ?» J'étais clairement pas à ce niveau-là. Mmh. Et donc la question de l'argent, elle est arrivée après avoir travaillé sur Balzac. Ouais. J'ai fait un livre sur le bien rapport sûr. De Balzac à l'argent.
La dépense et les ruines voilà. et l'endettement.
Exactement. Ouais. Où il était tellement foufou avec l'argent que je me suis dit, mais alors moi, c'est quoi mon rapport à l'argent ? Je me suis un peu interrogée là-dessus. J'ai commencé à changer mon rapport à l'argent. Et c'est le moment notamment où j'ai pris une agente.
Ah.
Parce que je me suis rendue à l'évidence, je ne saurais jamais négocier un contrat.
Ah.
Donc, il y a des gens dont c'est la spécialité, et j'ai rencontré une super agente, Ariane Geffard, et donc voilà.
Ah oui.
Et après, je me suis dit, mais en fait, la question de l'argent et la question des tâches ménagères sont complètement liées, et donc j'ai commencé à la développer. J'ai d'abord fait le podcast sur l'argent, et après, je me suis dit, j'ai encore des masses de choses à dire, parce que le podcast, en fait, les gens qui écoutent, le podcast, on ne peut pas dire énormément d'informations, parce qu'en fait, ça noie, et l'attention n'est pas la même que quand on lit un livre papier. Et du coup, j'avais gardé plein de choses, et je me suis dit, bah voilà.
Faut que ce soit recensé. Voilà. Ah ouais. Mais même justement, peut-être après avoir bien gagné de l'argent. Bah ouais, ton dernier livre sur les femmes oubliées de l'histoire, c'était un best-seller.
Ouais.
Bah ouais. Donc encore plus de raisons pour ne pas donner tout cet argent. Mais c'est compliqué, c'est un vrai tabou, parce que on met tellement de romantisme qu'en fait, au point de ne pas se protéger, c'est quelque chose qu'on n'ose pas dire à l'autre. Et on donne. Et c'est marrant parce que l'image, misogyne des femmes, c'est plutôt des femmes vénales intéressées par l'argent. Mais la réalité, ce que tu montres bien dans ton livre, c'est qu'en fait, c'est plutôt l'inverse. Les femmes donnent leur argent.
Ouais, mais alors cette image de la femme vénale, c'est vraiment intéressant. Bah, pareil, dans Libéré, j'avais travaillé sur le stéréotype de la mégère. En fait, on n'a pas envie de râler non plus sur les tâches ménagères, etc. Parce qu'on nous a ancré dans la tête, on a derrière l'épaule cette vilaine femme en bigoudi avec un tablier, un rouleau de pâtisserie à la main. On s'est dit, je ne veux pas être elle. Clairement, après, il ne faut pas être elle. Donc, il ne faut pas que je râle sur ces sujets-là. Et sur l'argent, c'est exactement pareil. Il y a un stéréotype sexiste, misogyne qui a été construit, qui est celui de la femme vénale. Et dès qu'on va commencer à dire « Ah, en fait, je trouve que je paye un peu trop ça, ou peut-être on pourrait... » Et bien on se dit « Ah non, mais je vais passer pour une femme... Je ne veux pas être cette femme-là. On m'a appris que cette femme-là était méchante, elle n'aimait personne. » Et donc, voilà. Donc, je pense que ces stéréotypes existent vraiment pour nous, comme répulsifs, et pour nous pousser à certains comportements.
Et puis que c'est encore hyper mal vu de parler d'argent. C'est vrai que les écarts de salaire, moi, je me souviens, quand t'es un mec qui demande à être payé correctement, c'est bien, il sait ce qu'il vaut, il a une bonne idée de sa valeur, il sait se défendre. Et par contre, quand t'es une femme, t'es une chieuse, une capricieuse, tu te prends pour qui ? Moi, ça m'est arrivé de découvrir sur une pub que j'avais faite il y a longtemps, où pourtant j'avais le rôle principal, que mon partenaire était payé beaucoup plus que moi.
Ah ouais.
Mais ouais, et en fait, il avait demandé. Et il avait demandé à être payé plus. Et on lui avait donné. Sauf que moi, je l'ai su sur le tournage et je l'ai dit. Après, je dis, moi, je comprends pas, il a moins de textes que moi, c'est moi. Et trop tard. Les contrats avaient été signés.
C'est pour ça, dans le livre, dans les conseils que je donne aux hommes, en fait, parce qu'ils peuvent aussi faire des trucs, c'est genre, c'est valable aussi pour les femmes, mais donnez votre salaire à vos collègues. Mais c'est hyper important. Discussion de machine à café, etc.
Oui, tu le dis.
Dites combien vous êtes payé. Ouais. Parce que moi, je vois autour de moi, même des copines dans des entreprises, dans des journaux, hein, par exemple, elles ont renégocié leur salaire, des augmentations, quand elles ont su que, ah bah tiens, lui, il est payé plus, il est arrivé 2 ans après moi, comment ça se fait, etc. Et quand elles vont au RH, on leur dit, ah oui, c'est vrai, on pourrait faire un rattrapage, vous avez raison, etc. Mais donc, tant qu'on n'a pas accès au salaire des autres, c'est impossible de se situer ou alors de se dire combien je vaux. Et là, on sait que par un biais genré, les femmes vont avoir tendance à sous-estimer combien elles peuvent demander.
Ouais, c'est vrai. Il faudrait vraiment qu'on soit plus transparent là-dessus. Ton livre, tu penses qu'il y a aussi un problème particulièrement français, parce que la transparence sur l'argent, j'ai l'impression que dans des pays nordiques, c'est un peu moins tabou, non ?
Alors, clairement, aux États-Unis, c'est pas du tout la même culture.
Ouais. Ça, c'est plus positif, le rapport à l'argent.
Il est moins. En tout cas, il est plus libéré. Nous, on a vraiment un truc. On
interdit.
Et on n'en parle pas. Et c'est. Enfin, je pense qu'on a tous cette gêne. Si on te demande combien tu gagnes, en fait, tout le monde a un petit genre. Ça crispe un peu.
Alors
qu'aux États-Unis, ça pose aucun problème. Donc, ça, c'est sûr, il y a quelque chose de très français par rapport à ça. Et qui joue, qui est un peu en train de changer et d'évoluer. Donc là, il y a plein de médias qui se lancent à destination des femmes pour parler d'économie et qui sont un peu... Parce qu'on a vu qu'aux États-Unis, ça existait, quoi. Et en France, les magazines d'économie, ils ne parlent pas aux femmes. Aux États-Unis, il y a un vrai truc là-dessus. Alors après, ultra-capitaliste,
clairement.
De féminisme...
Entrepreneurial, d'empowerment. Ouais. Mais bon... Au moins, c'est pas du tout mal vu d'être une putain de CEO et d'être et de gagner des sous. Ouais.
Oui. Et pour autant, ça suffit pas à réduire l'écart. Ils ont quand même des problèmes d'inégalité, mais aussi lié au fait que aux États-Unis, soit tu fais carrière, soit tu fais des enfants, c'est quand même très compliqué. Les premières années, t'es censé t'occuper à 100% des enfants, quoi.
Ouais, c'est ça. Oui, t'imagines, faudrait faire une section encore plus sur les femmes et l'argent dans le couple de gauche.
Oui.
Encore plus coupable, encore plus tabou.
Mais qui est un peu ce que je dis dans le livre, tu vois. À la fin, je dis aux gens, est-ce que votre couple il est de gauche ou de droite? Est-ce que vous êtes demandé en fait dans le couple, comment on va redistribuer les richesses.
Ouais.
Et effectivement, je pensais un peu à tous les copains de gauche autour de moi qui sont vraiment à fond pour la redistribution au niveau de la société. Et t'as un peu envie de leur dire...
Et au
alors,
coco.
Et chez toi, comment tu redistribues?
Oui, parce qu'il y a aussi la question qui vient compliquer un couple quand ça devient une famille, c'est la question des enfants. D'où l'importance à ce moment-là des mariages, des avocats, de comment mettre ça...
Déjà de se poser la question, mais c'est ça qui est compliqué. C'est pour l'avoir vécu, quand les enfants arrivent, c'est un tel bouleversement. On a déjà géré l'aspect matériel est compliqué, mais alors penser à l'aspect financier, je crois que vraiment...
C'est ça.
Et alors qu'en vrai, il faudrait y réfléchir. Et ce qui est intéressant, c'est là, en travaillant sur le sujet, je me suis dit, en fait, il y a plein d'angles qui n'ont jamais été explorés. Et par exemple, j'ai trouvé une étude de l'INSEE qui dit que dans les couples hétéros, les mères... ont un temps de trajet pour aller au travail, moins long que les hommes. Et en fait, en fouillant le truc, on se rend compte que les femmes vont avoir tendance, une fois qu'elles ont eu des enfants, à chercher un emploi à proximité du domicile et de l'école, qui est une manière de se rendre disponible, etc. Voilà. Et les hommes, pas du tout. Et en fait, là, déjà, on peut se dire, on sait que les femmes, il y a un écart de revenus, de salaire avec les hommes, mais ça peut être aussi une des explications, c'est qu'elle ne va pas choisir l'offre d'emploi la plus...
Avantageuse.
La mieux payée, etc. Elle va se dire, ça, c'est moins bien payé, mais franchement, je suis à 20 minutes de l'école, ça m'arrange vachement. Et elle va accepter ça. Et donc, ça fait partie des trucs complètement dont on ne parle pas, mais qui, à mon avis, jouent sur l'écart, effectivement, de revenus entre les deux.
C'est vrai, c'est plein de choses. Mais tu parles aussi de un peu de ta mère dans le livre. Tu dis, il y a Gwendoline et y a ta mère qui est pourtant une super féministe. Mais comment elle, est-ce que tu penses qu'elle s'était posée toutes ces questions?
Est-ce que ma mère s'est posée des questions? Ma mère, quand même, s'est mariée 3 fois, elle a divorcé 3 fois. Donc au bout d'un moment, elle aurait pu se poser des questions. Je crois pas tellement. Et en même temps, elle m'a toujours dit « refais pas les mêmes erreurs que moi ». Je crois qu'elle était sur cette idée. Et attention, parce que je rencontre toujours des jeunes femmes qui sont sur la même logique, de se dire « l'indépendance économique, c'est hyper important ». Et donc, elle mettait un point d'honneur à payer un maximum de choses qu'elle pouvait payer. Mais en fait, c'est pas ça, l'égalité. Et c'était elle qui m'élevait, qui s'occupait de tout. Et je lui dis ça marche pas, quoi. Et après, elle a pas demander de pension alimentaire pour moi quand mes parents sont séparés, etc. Et elle avait une espèce de fierté de je me débrouille toute seule.
Moi, j'ai pas demandé de pension, c'est ça.
Et je vois cette fierté. Ouais. Et pendant longtemps, j'étais genre, je suis trop fière et tout. Et en fait, je me dis, non, mais tu t'es crevée, tu t'es épuisée. En fait, t'avais le droit aussi.
C'était un travail gratuit que t'as fait.
Mais elle avait du mal à le voir sous cet angle-là, je pense.
Ouais, bien sûr, parce que c'était déjà une victoire féministe, en tout cas, de pouvoir payer les choses seule, de ne pas avoir besoin.
Et c'est aussi un argument qu'utilise. Alors, ça, c'était terrible, c'était dans le podcast Rends l'argent. J'avais une des filles qui avait témoigné, qui me racontait ça, qui est une journaliste féministe et qui me disait, quand elle s'est séparée du père de son enfant, qui lui disait, tu veux une pension, mais je croyais que t'étais féministe.
Ah.
Je dis, mais la violence de ça. Mais c'est absolument terrible. Et c'est un truc que je vois beaucoup circuler sur les réseaux sociaux. Genre, ah bah ouais, maintenant les féministes, elles veulent des pensions alimentaires. Bah alors les filles. Alors, la pension, c'est pour payer les frais d'éducation des enfants que les mères avancent dans la plupart des cas. Et ça, en plus, ça ne les recouvre pas intégralement. Hein, c'est qu'une petite partie. Mais donc là-dessus, on a réussi à nous construire un truc sur l'argent auquel on a légalement le droit. Bah en fait, moralement, politiquement, ça irait pas avec nos idées de le toucher. Je dis putain. On se fait toujours avoir. Enfin, ça va jamais. Quoi qu'on
ouais,
fasse.
C'est sûr. Bah il y a plein de il y a plein d'espaces de contradiction. Moi, je pense que il y a un truc, mais peut-être. Ton livre m'a quand même pas mal décomplexé dessus et c'est encore un sujet sur lequel je dois bosser ou peut-être écrire des blagues. Une contradiction de féministe, c'est que j'ai envie que le mec paye pour le premier date.
Ouais.
Bah, c'est-à-dire que bon, maintenant je lui répondrai quand on me dira pourquoi, je dirais bah la taxe rose, lititou le coq. Mais c'est-à-dire qu'en effet, après moi je pense que j'y mets un peu un imaginaire de galanterie, de générosité où je me dis on aura tout le temps d'équilibrer par la suite et de faire chacun à son tour. Mais le côté sortir deux cartes dès le premier date, pour moi c'est pas. Et aussi surtout, je me dis si on fait vraiment combien m'a coûté ce date. Avec ce que je paye, avec mon rasoir rose qui coûte trois fois plus cher que le tien, ma manucure, voilà, tout ça, si on le met bout à bout à la fin, ben non, j'ai déjà payé trois fois cette note. Donc maintenant, s'il te plaît, paye-la, quoi.
C'est vrai. Et en même temps, bah, tu vois, c'est là où j'ai l'héritage de ma mère, c'est que moi, je tire une certaine fierté. Et même quand j'étais super fauchée, j'avais quand même la fierté de dire non, c'est bon, je peux payer. Il y avait un truc de pouvoir. Il y a quand même un enjeu de pouvoir, en fait, derrière, qui est absolument terrible. Et c'est pour ça aussi qu'on n'ose pas en parler dans les couples, parce qu'on sait. On sait qu'en général, quand on ne gagne plus la même chose, il y a un jeu de pouvoir qui se met en place, qui est compliqué à gérer. Mais donc, moi, je ne serais pas du tout comme... Je serais plutôt à dire, premier date, ça
c'est
va.
C'est toi qui l'invites.
Ouais, je paye.
Donc, toi, tu ferais... C'est toi qui paierais ou vous feriez moite-moite au premier date?
Bonne question. je sais pas. Ça me rappelle. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a que vaguement à voir. C'est quand il y a eu le début de MeToo et qu'il y avait des garçons qui étaient un peu genre, je comprends pas. Est-ce qu'il faut payer ou pas? Est-ce que c'est sexiste? Comment elle va? Et je sais pas. Est-ce qu'il faut tenir la porte et tout? Et j'étais là, mais les mecs, vous n'allez pas nous claquer la porte au nez, quoi. Enfin, juste, moi, je tiens la porte aux gens, que ce soit un homme, une femme, un enfant, une vieille
personne. La politesse.
Bah ouais. Juste soyez polis. Et en fait, maintenant, je me rends compte que... Mais parce que j'ai gagné de l'argent, quand j'étais fauchée, mes potes m'invitaient. Et maintenant, je paye un maximum. À chaque fois, je leur dis, non, c'est moi qui paye.
Ouais.
Mais en fait, je suis plus sur ce truc de... Ça dépend à qui tu dates.
Ouais.
Si tu dates un mec qui gagne comme toi, c'est bon, 50-50.
Oui. Ouais.
Quelqu'un dont tu sais qu'il gagne trois fois ton salaire, bon... Et quelqu'un qui gagne moins que toi, je me dirais, je paye. Je suis un peu sur cette logique.
Ouais,
je suis un peu une contrôleuse fiscale. Alors, on va faire un ratio.
On va mettre les fiches d'imposition sur la table. Et alors, l'argent dans l'amitié?
Ouais, super sujet, l'argent dans l'amitié. Moi, j'ai survécu grâce à l'argent de mes amis pendant tellement longtemps. Moi, j'ai été très, très fauchée entre 20 et 30 ans, grosso modo. Mais vraiment super fauchée. Et je dis dans le livre, je pense que c'est un truc, c'est avoir été pauvre, c'est un truc traumatisant, ça te reste en tête. Alors moi, je ne suis pas une transfuge de classe. C'est un truc dont on parle beaucoup en ce moment. Moi, j'ai grandi dans une petite bourgeoisie, etc. Mais à un moment, je me suis retrouvée vraiment à la dèche. Donc, j'ai connu le truc genre, tu vois le compte en banque qui chute au fur et à mesure. Et là, c'est mes potes payaient tout, quoi. Mais j'ai vécu chez mes potes aussi, donc et ça a jamais été un problème. Et maintenant que je leur dis
je
moi qui paye les restos et voilà, et ils me font ouais. C'est
cool. Et attends, cette période de la vingtaine, t'étais journaliste, t'étais déjà écrivaine?
J'étais pas grand chose, c'est pas ça le problème. C'est cette période de ma vie où j'ai beaucoup réfléchi à c'est quoi le sens de la vie. J'ai beaucoup fait la fête aussi et j'ai fait donc beaucoup de jobs alimentaires. Je savais que je voulais écrire, mais je savais pas du tout comment m'y mettre. J'écrivais des bouts de romans, mais que je finissais pas, etc. Et je ne voulais pas, j'avais fait des lettres modernes. Je ne voulais pas être prof parce que je m'étais dit, si je suis prof, je n'écrirai jamais un livre. Je le sentais trop comme ça. Et effectivement, à la fac, j'avais un prof qui m'avait dit, mettez-vous en danger pour finir un bouquin. Et donc, le danger étant la précarité. Et après, j'ai commencé à être un peu journaliste pigiste à côté, mais j'étais aussi pionne. J'étais assistante d'éducation dans un lycée. Et puis, j'étais gardienne d'immeuble pendant les vacances dans des offices HLM à l'Opac de Paris. Donc, je faisais plein de petits trucs comme ça. Et j'avais vraiment un budget hyper ric-rac. Il suffisait qu'il y ait un truc genre... C'était l'assurance habitation. Mmh. Ça tombe une fois par an, ce truc. Ça me foutait en l'air à chaque fois. C'était au mois de septembre. Je faisais, ah putain, merde. Il va falloir que j'avance ça. Donc voilà, donc c'était hyper juste...
La débrouille.
Ouais, c'était vraiment... Bah, c'est pour ça que j'ai écrit après un livre, Les Chroniques de la débrouille.
Tu tenais déjà ton blog ?
Et j'ai eu le blog pendant cette période-là, effectivement. Et c'est là, il n'y a pas longtemps, j'intervenais à l'école de journalisme de Lille. Et donc, elle me disait, donc oui, vous êtes journaliste indépendante. Et j'ai dit, non, j'étais journaliste précaire.
Mmh. Ah.
Et vraiment, pour moi, genre, ouais, journaliste indépendante, oui, c'est une manière de dire, bah non, mais
on est pas salarié.
On est super précaire, quoi.
Bien sûr. Ouais, bah oui, ma mère, c'est un peu comme ça aussi qu'elle s'est retrouvée sans travail. C'est parce qu'elle était journaliste précaire aussi. En fait, elle était pigiste. Enfin, elle avait bossé dans des différents journaux. Et puis, quand elle nous a eus, elle a plus ou moins arrêté parce qu'elle sentait qu'elle était prise par l'envie de s'occuper de ses enfants. Et à l'époque, beaucoup moins de sororité, beaucoup de compétition dans les rédactions, peu de femmes. Et je pense que ce n'était pas son caractère de plus se mettre en avant, se vendre. Et puis tout simplement, c'était tellement mal payé que ça faisait presque à la fin plus de différence.
Oui, bah, ça c'est le gros piège, effectivement, des emplois de femmes qui sont très mal payés. Moi, je sais que pour j'avais des piges quand j'ai eu mon premier enfant et je n'osais pas prendre le congé maternité parce que j'avais peur de perdre mes piges régulières, etc. Donc, et pour le deuxième, je me suis dit, bon, ok, je vais quand même prendre mon congé mat auquel j'ai droit légalement. Et ben, j'ai perdu mes piges régulières et j'ai dû aller au prud'homme et j'ai gagné au prud'homme. Mais ça a mis 3 ans pour récupérer mes indemnités. Mais après, sur le... Il y a une vraie question à un moment où je me suis dit, il faut pousser, je pense qu'il y a une tension entre le fait de se dire c'est hyper important d'être indépendante économiquement. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et en même temps, je comprends très bien qu'on se dise, je viens d'avoir un enfant, j'ai plus envie de passer du temps avec mon enfant que d'aller bosser dans une boîte quelconque. Et donc, il faut réfléchir aussi, enfin, le but de mon livre était de se dire, quand vous vous mettez à temps partiel, réfléchissez aux implications économiques que ça a. Essayez de voir à deux comment vous pouvez les compenser, parce que le temps partiel, c'est pas juste que vous allez perdre une journée de salaire. C'est-à-dire que vous allez perdre des cotisations pour la retraite. Et je sais que ça paraît très loin quand on est jeune, mais ça arrive vite. Il y a un vrai problème de pauvreté des femmes retraitées en France. Ça veut dire que vous allez, après, quand vous allez vouloir repasser à temps complet, tout le monde va considérer que vous êtes un peu has-been, c'est fini, vous n'êtes pas motivé, vous êtes resté trop longtemps à temps partiel, etc. Vous avez des promotions professionnelles qui vont vous passer sous le nez. Enfin, donc, il y a quand même tout un truc qu'on paye. Et de l'autre côté, ce que je raconte dans le livre avec Gwendoline et Richard quand ils font ce choix-là, c'est que Richard, lui, il est à temps complet, il est super investi, il n'a pas à se préoccuper de la maison puisque Gwendoline prend en charge. Et puis, elle lui fait économiser des heures de ménage, de garde d'enfants, elle gère tout, enfin voilà. Et donc, c'est comme ça que l'écart de revenus entre les deux
se creuse.
Et au moment de la... Et on dit beaucoup que les séparations appauvrissent les femmes, mais je pense que c'est pas vrai. Je pense que la séparation rend visible une différence de revenus qui était préexistante.
Ouais. En fait, ton livre, c'est aussi ça ouvre la question du contrat du couple, enfin au-delà du contrat de mariage, mais du contrat des colonnes d'un couple. Et je pense que c'est très pragmatique et moderne. C'est vrai qu'encore une fois, c'est pas trop la culture française, enfin du coup de foudre tel que c'est vu dans les films. Il y a ce truc un peu dans l'imagerie, t'associes ça à plus un truc anglo-saxon, mais je crois que c'est en train de se développer sur toute la question des rapports amoureux par rapport à... Alors on se fout pas mal de leur gueule, et moi j'en suis pas, mais tous les couples qui deviennent polyamoureux ou qui s'ouvrent, c'est pas mon cas, mais ce que j'admire en tout cas dans leur démarche, c'est le fait d'établir des contrats.
Oui, c'est vrai.
Et tu vois, ils se disent ok, et eh ben alors on avait cet idéal pendant 3 ans, voilà, aujourd'hui ça fait 10 ans, est-ce qu'on peut avoir une discussion sur le fait d'ouvrir ? Voilà, moi j'aimerais que si ça ait lieu, je ne le sais pas. J'aimerais que ça ait lieu avec quelqu'un qui ne fasse pas partie du cadre proche. J'aimerais que ce soit pas quelqu'un, un de tes amis. Et enfin, au moins c'est une discussion et c'est assez proche, enfin, je trouve, de ce que tu dis dans ton livre, c'est de dire, d'avoir les discussions et de se dire, ok, bah, que Gwendoline, en fait, elle lui dise, attends, c'est quoi le contrat, là? Que les contrats ne soient plus tacites, en fait, que de poser les mots et...
Et en plus, avec le temps, ça évolue un peu malgré soi, mais c'est valable pour tout, pour effectivement le polyamour, la sexualité, tout. C'est-à-dire, dans le couple, quand on reste ensemble, au bout d'un... On voit bien que, oui, il y avait le contrat de départ, et puis qu'il a changé, et qu'il évolue sans qu'on s'en rende compte, et qu'à un moment, de toute façon, c'est bénéfique de faire une pause et de se dire, OK, où on en est? Est-ce que ça correspond encore à ce qu'on voulait, à ce qu'on veut, à ce qu'on construit, etc. Il y a un exemple tout simple dans le livre, mais c'était important pour moi, parce qu'un livre d'économie, je me suis dit, c'est trop chiant à lire. Donc, c'est un peu fictionné avec ce couple, Gwendoline Richard, et quand ils se mettent ensemble, c'est vraiment, ils sont hyper modernes, ils sont à égalité et tout. Et notamment, elle est hyper contente parce qu'il y a un truc qui fait la vaisselle, quoi. Systématiquement, c'est toujours lui, c'est son truc qui fait la vaisselle. Elle se dit, waouh, je suis en train de réinventer l'amour hétéro. Et puis, en fait, quelques années plus tard, ils gagnent un peu plus d'argent, les enfants, machin, ils achètent un lave-vaisselle. Et là, donc, il ne fait plus la vaisselle. Et en fait, au bout d'un moment, elle se rend compte qu'il n'a pas remplacé par une autre tâche parce qu'il n'a pas le temps. Et voilà, et c'est juste un exemple tout simple de comment, effectivement, sans qu'on le voit, en fait, à un moment, il y a des choses qui se mettent en place qui sont rarement égalitaires. Parce que l'égalité, ça ne se met jamais en place naturellement. Et c'est toujours, en fait, on est, quand on n'y fait pas attention, on est rattrapé par les vieux schémas, quoi.
Ouais, c'est vrai. Et c'est ça qui est fou dans ton livre, c'est qu'au-delà des notions d'économie très concrètes, il y a ce discours que tu as qui est très juste sur le manque de confiance des femmes en elles, en fait. Et ça, il fallait oser le dire parce qu'on est aussi dans une période où il ne faut plus genrer, de peur de tomber dans le cliché, il ne faut pas attribuer des caractéristiques aux femmes. Mais ce livre tient quand même sur le fait de l'observation qui est que si les femmes avaient peut-être un peu plus confiance en elles aussi, elles réclameraient ou elles se sentiraient légitimes d'avoir cet argent.
Oui, ça, la légitimité à gagner de l'argent. Alors, oui, je cite à un moment, mais très vite, mais il y a une étude fascinante là-dessus où, effectivement, il y a les écarts de salaire et il y a le ressenti de salaire. Et donc, il y a une étude en France qui montre qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui sont mécontents de leur salaire. C'est-à-dire que les femmes gagnent moins. Mais qu'en plus, elles sont contentes.
C'est ça, ouais.
Et ça, c'est fascinant. Et donc, il y a plus d'hommes, les hommes gagnent plus, mais ils trouvent qu'ils pourraient avoir encore un peu plus et qu'ils sont un peu sous-payés.
Ouais.
Et donc, alors, je ne sais pas si c'est une question de confiance ou si c'est pas... Je pense qu'il y a vraiment une question de légitimité qui est au-delà de la question de confiance en soi, qui est une question de, en fait, c'est peut-être pas vraiment ma place. Ma place, ça a tellement été à la maison pour les femmes pendant longtemps, etc., que j'ai l'impression que... je pense que la question de la légitimité à avoir de l'argent est un vrai sujet pour les femmes. Et que ça, on peut le faire sauter, en fait. C'est ça qui est super, c'est que c'est des trucs qui sont construits socialement et qu'on peut les faire sauter. Et dans le livre, j'essaye vraiment de prendre cette notion d'argent et de l'étudier sous l'angle économique, sociologique, historique, parce que je fais tout un truc sur l'histoire des femmes et de l'argent en France. Et puis psychologique aussi, c'est pour ça que je vais interviewer ma mère, parce qu'elle m'a refilé des névroses familiales, comme tout le monde a un rapport tordu avec l'argent, et c'est toujours nos parents qui nous ont refilé ça. Et je veux dire, en prenant le sujet sous tous les angles, à un moment, on arrive à démonter les choses et à avoir un rapport plus sain.
Et une femme qui gagne plus d'argent qu'un homme?
Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Et dans les quelques témoignages que j'ai autour de moi, il y a un truc de génération, je crois. Dans les générations plus jeunes, ça ne pose pas de problème. Les générations plus âgées, j'ai des femmes qui m'ont dit il fallait quand même que je compense en étant deux fois plus présente. Pas que j'abandonne les tâches domestiques, quoi.
Oui, c'est ça. C'est que je peux observer dans mon entourage des femmes de la génération, de la soixantaine, qui gagnent plus d'argent que leur partenaire, mais elles compensent pratiquement en surjouant d'être soumise pour pas que ça puisse faire peur ou trop...
être humiliant. C'est comme s'il y avait un truc d'humiliation, en fait,
c'est
pour
ça.
Lui.
Ouais.
Donc, il faut maintenir une façade de quelque chose, pour une
des
espèce d'honneur masculin.
Viril,
Mais j'ai l'impression que chez les jeunes, ça se voit moins. Après, je sais, c'est à voir... Il y a aussi la question que les jeunes couples, quand on est jeune, on commence en général au SMIC ou mal payé. Ouais. Les écarts de salaire ne sont pas énormes et après, ça se creuse plus tard. Mais j'ai l'impression que ça va mieux quand même.
Ouais. Et donc, le PACS, aujourd'hui, ça protège, c'est ça?
Alors, le PACS, ça protège plus que si on n'avait rien, mais ça protège moins que le mariage. On n'est pas encore à égalité. Et en général, alors c'est souvent quand on fait un achat immobilier, etc., à deux, on conseille de faire un PACS plus un testament. Parce qu'en fait, le PACS ne fait pas de vous des héritiers héritières de votre compagnon ou compagne. Et pour hériter de l'autre, il faut avoir fait un testament. Donc, c'est important. Et en fait, c'est des sujets. Quand on emménage ensemble, quand on achète un bien ensemble, il faut s'y intéresser, quoi. Il faut se poser les questions parce que moi, c'est vraiment... sur le parcours de Gwendoline, et même du mien d'ailleurs, ça a été de me dire, en fait, je ne savais pas, et je ne savais même pas que je ne savais pas. En fait, tu connais tellement rien que tu ne te rends pas compte qu'il y a des trucs, oui, tu vas te faire avoir, etc. Et dans les explications des écarts de patrimoine entre les femmes et les hommes qui se creusent en ce moment en France, qui vont plutôt en s'aggravant, en fait, il y a un truc hyper intéressant, c'est que avant, on se mettait en couple, on se mariait, et c'était sous le régime de la communauté des biens. Donc, tout ce qui est à moi et à toi, on partage tout, voilà. Ça se fait de moins en moins. Déjà, on se marie de moins en moins. Quand on se marie ou qu'on se paxe, en général, on fait de plus en plus la séparation des biens.
C'est ça.
Ça s'appelle, terme un peu des sociologues, c'est l'individualisation du patrimoine.
Ouais.
Et c'est très, effectivement, c'est très l'air du temps. Tu dis, bah oui, c'est logique, chacun garde, on risque de se séparer, chacun repartira avec ce qui était à lui et à elle. Et en fait, ça, on s'est rendu compte que ça aggravait les inégalités dans les couples.
Oui.
Parce qu'en fait, mettre en commun, bah, ça avantageait celle qui avait moins. Et que faire chacun de son côté, et bah, voilà, ça se fait au détriment du plus petit revenu. Après, ça peut être aussi un homme. Hein, et dans les couples d'hommes et les couples de femmes, ça joue aussi. Du moment qu'il y a un écart de revenu, ces choses peuvent se mettre en place et s'aggraver.
Oui, toi, ce que tu préconises, c'est le compte commun ? C'est pas mal.
Alors, je suis pas du tout sur faire la morale aux gens et leur dire comment ils devraient s'organiser, etc. Juste déjà, réfléchissez de votre côté à comment vous organisez. Ce sera super. Parlez-en, ce sera vachement bien. Renseignez-vous. Mmh. Et moi, je trouve, alors après, pour avoir bossé avec des associations d'aide à des femmes victimes de violences, il y a quand même un truc important, c'est ne pas avoir qu'un compte commun. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les violences économiques, etc. Et que c'est important que les femmes aient un compte individuel bancaire à elles, au cas où elles aient besoin un jour de partir, etc. Qu'elles aient des ressources à elles. Donc je serais plutôt genre avoir chacun un compte individuel, plus un compte commun qui sert, on met de l'argent en proportion de ses revenus à chacun, pour payer les courses et voilà tout ça. Et si on fait un achat, genre un appart, c'est un deuxième compte commun qui sert à payer ça. Et c'est important que ce soit un autre parce que ce ne sera pas les mêmes montants de participation.
Mmh.
Eh ouais, c'est pointu tout ça.
Ouais, et c'est marrant parce que tu dis que la famille, nos parents nous lèguent des névroses. Mais c'est aussi ça, c'est l'argent dans la famille. Est-ce que jusqu'à quel âge des parents devraient entretenir ou aider financièrement leurs enfants ?
Ah, c'est une question que je commence à me poser. Je sais pas. Alors moi, je suis aussi sur la question de l'argent de poche, qui est tout un truc où je me dis, mais est-ce que rétribuer les tâches ménagères, ça me dérange ? Ben, en même temps, lui donner de l'argent de poche sans qu'il fasse rien, ça me dérange aussi.
Mmh.
Ouais, parentalité, argent, c'est un vrai sujet. Et ça, je sais pas du tout. En plus, je pense qu'il n'y a pas de formule toute faite. J'ai tellement l'impression que ça dépend. Moi, je vois avec les enfants des tempéraments de chacun et de là où on voit, bah, lui, ses défauts, c'est un peu ça. Donc, pour le pousser, il faudrait peut-être mettre en place un système différent du système qui fonctionnera avec un autre gamin. Ouais, j'aurais du mal à te donner une solution. J'ai pas la solution miracle là-dessus. Je sais pas jusqu'à quel âge, tu vois, non plus.
Quel âge, toi, tu paierais si jamais, par exemple, tes enfants faisaient des études privées assez coûteuses, tu te dirais que tu les aiderais jusqu'à 20, 25 ? Est-ce que tu mets un âge limite ou tu voudrais qu'ils se débrouillent par eux-mêmes ?
Non, parce que je veux qu'ils restent avec moi le plus longtemps possible. C'est mon plan secret. Donc, non, je ne mettrais pas du tout d'âge limite. En revanche, ce qui est important pour moi, c'est de bosser l'été, tu vois, les trucs...
Les petits boulots.
Voilà. Ça me paraît hyper important. Ça me paraît normal de payer les études supérieures. Mais quand tu as 3 mois de vacances universitaires, ça me paraît normal d'en passer 2 à bosser, quoi.
Encore un truc, les gens vont penser que je suis pro-américaine, mais encore une vraie différence sur les Français et les Américains, c'est que les Américains, même très riches, font des petits boulots. Je sais, j'ai des cousines qui sont vraiment richissimes.
Ah ouais.
Elles ont fait des petits boulots parce que ça fait partie vraiment la culture, c'est ancré dans la mentalité, quoi. Du self, même quand il faut avoir fait des jobs d'été, alors que clairement, je pense que j'ai pas un ami riche qui a jamais fait une soirée de babysitting. Des gens qui sont riches par héritage, ils n'ont pas connu ça, jamais. Et j'ai même des amis qui n'ont jamais payé eux-mêmes de loyer. Ils vivent dans des appartements qui ont été achetés par leurs parents. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'étais au collège à Montaigne. Et en fait, la question de l'argent, c'est vraiment un truc aussi dans ma vie parce que dès le départ, moi, j'habitais rive droite, rue du Sentier. En fait, mes parents avaient fait une domiciliation pour que j'aille au collège dans le 6e parce que le collège était mieux que là où j'étais. Mais donc, je prenais le RER et puis nous, on habitait rue du Sentier. Enfin, ça va, on vivait bien, mais à l'époque, rue du Sentier, c'était pas... En fait, on vivait pas très bien dans le sens où on vivait au-dessus de nos moyens.
Ouais.
En fait, mon père accumulait des dettes, mais nous le cacher et on continuait à faire de bonnes vacances tout en mangeant des pâtes parce qu'en fait il y avait pas trop de viande, mais quand on partait on allait dans... ouais, vraiment Balzac. Et sauf que je me retrouvais par contre là à Montaigne avec des enfants très riches. Donc il y avait, je me souviens, donc j'avais demandé moi aussi, je veux un manteau, une doudoune chatawak, et impossible. Et j'avais cette fille, Clara, qui avait sa grand-mère qui lui donnait de l'argent de poche. Et elle avait tellement d'argent de poche qu'elle achetait pour tout le monde des pains au chocolat qu'elle distribuait dans la cour de récré. Et il y avait quand même quelque chose qui se jouait là-dedans sur le fait d'acheter, la facilité. Et je me souviens, mon père qui nous gâtait moins, on nous disait « Ah, tu vois, ça, c'est le mauvais exemple. » Il essayait de dire « Ça marchera pas. » Et c'est vrai qu'après, je m'étais un peu ancrée ça dans la tête. Et j'ai vu, en effet, parmi cette jeunesse dorée, un comportement que tout était trop facile, quoi. Qu'ensuite, le fait que tout soit... D'avoir de naître avec une cuillère en argent dans la bouche, c'était pas forcément... En même temps, un peu de jalousie aussi, parfois, parce que moi, j'ai été indépendante tôt, quoi, vers 18 ans. Ensuite, j'ai plus pu trop compter sur mes parents financièrement. Alors, ils romantisaient ça en mode « Bravo, ma fille, c'est bien, tu te débrouilles ». Moi, j'étais un peu en mode « Mais est-ce que l'argent, c'est pas aussi un peu de l'amour, quoi ?» C'est compliqué.
Ah, je suis pas sûre. Non, non, non. Moi, je pense pas du tout. Mais pour autant, je suis d'accord avec toi. Il y a un truc, ouais, très français dans les classes aisées de pas faire de petits boulots, etc. Et c'est vrai que dans le livre, je parle un peu de Kim Kardashian parce qu'on peut parler de Kim Kardashian sur tous les sujets du monde. Mais qu'elle a un rapport à l'argent dont elle parle énormément. Ouais. Et elle dit, alors quand même, elle vient d'une famille
richissime,
vraiment riche, et que ça a toujours été très clair. Son père lui disait, mais tu vas travailler, quoi. Et donc, elle a été vendeuse, etc. Alors après, elle est aussi dans un storytelling de...
Bien sûr.
J'ai appris, en fait, je suis devenue riche grâce à mes compétences financières, etc. Mais n'empêche que c'est un truc, elle en reparle. Et elle avait donné une interview il n'y a pas très longtemps où elle disait que ses enfants, elle avait hâte qu'ils aient l'âge d'aller faire des jobs, quoi, d'aller bosser. Et que ça avait choqué des gens, genre, oh, mais tes enfants, ils vont travailler. Elle était là, bah évidemment qu'ils vont travailler, ils vont se bouger le cul, oui. Et donc ouais, je crois qu'il y a un truc un peu... Après, il y a aussi aux États-Unis, je me suis rendu compte, c'est un peu l'envers du truc. Je me demandais pourquoi est-ce qu'ils avaient une culture économique plus développée que nous, je veux dire au niveau individuel. Ils maîtrisent mieux les sujets que nous. Nous, on n'y connaît rien. Parce qu'on peut faire toutes ces études et ne pas savoir lire une fiche de salaire.
Ah ouais.
Et ça, c'est quand même fou. Putain, tu sais pas lire ce qu'il y a sur ta fiche de paye.
C'est clair.
Et moi, c'est ma mère qui m'a expliqué la différence entre le brut et le net, par exemple. Je me souviens sur mon premier job, tu vois. Elle me disait, non, mais ça, c'est pas l'argent que tu auras sur ton compte. J'avoue.
Dommage.
Et donc, aux États-Unis, il y a pas... Enfin, vraiment, ils sont meilleurs. Et en fait, c'est aussi parce que comme ils n'ont pas d'état social et qu'il n'y a pas de filet de sécurité, c'est une telle incertitude et c'est tellement la jungle économique qu'ils sont obligés d'avoir des connaissances en économie pour essayer de s'en sortir un minimum.
Oui, bien sûr. Il doit y avoir aussi évidemment des comportements de jeunesse dorée. J'imagine qu'il y a très... Il doit y avoir évidemment des comment dire... mais il y a une valeur. Même si, si tes parents peuvent te payer Stanford, il y a quand même... c'est bien de pouvoir inventer quelque chose par toi. Je crois qu'il y a quand même un peu... il y a un peu plus... Peut-être qu'eux, ils ont un peu plus honte d'hériter que nous. Nous, ça va de soi. Alors que c'est une vraie question, l'héritage. Est-ce qu'on n'abolirait pas l'héritage?
C'est un peu... J'aime bien parce que ça fait quelques années qu'on voit monter effectivement cette question. Est-ce qu'il faut abolir l'héritage? Et j'ai des amis qui sont complètement anti-héritage. Mais genre, c'est leur combat politique. Quoi. C'est vraiment leur truc. Et ça pose plein de super questions. Alors après, moi, dans le livre, évidemment, je parle du travail de Céline Bessière et Sybille Golac qui avaient fait Le genre du capital et qui sont intéressées à la manière dont se passent les successions en France dans les familles. Et on se rend compte que les garçons héritent plus que les filles. Et encore une fois, c'est pas parce que les parents préfèrent le garçon et qu'ils aiment moins les filles, mais c'est pour un ensemble de raisons, et notamment que souvent, en fait, hériter, ça coûte cher. C'est, grosso modo, s'il y a une maison, par exemple, c'est la maison familiale. Pour être égalitaire, ce qu'il faudrait faire, c'est la vendre et diviser l'argent que ça rapporte entre les enfants. Sauf que c'est la maison familiale, on n'a pas envie de la vendre, on veut qu'elle reste dans la famille. Donc, on se dit, on va... la léguer à, disons, le fils, et on va choisir le fils parce que, comme il gagne plus d'argent, il aura les moyens d'entretenir la maison. Et la fille elle-même peut dire, non, mais moi, j'ai pas les moyens, c'est... En fait, hériter de ce bien-là va me coûter trop cher. donc. Et du coup, elle va, et comme les parents ne vont pas forcément avoir assez d'argent monétaire pour lui donner l'équivalent de ce que vaut la maison, bah on va sous-estimer la valeur de la maison et donc lui donner moins. Et ça va se faire avec l'accord de tout le monde.
Comme un peu comme l'argent de poche dès le départ, où on va vraiment décider d'instinct que ça va être moins. Et toi, tu te dirais plutôt, Titiou, de nature aujourd'hui dépensière ou économe, maintenant que tu gagnes bien ta vie?
Alors, moi, c'était intéressant de commencer à gagner de l'argent et de me dire, OK, quelle va être ma réaction face à ça? J'avais l'impression d'être la souris dans le laboratoire et en même temps le scientifique qui l'observe, genre, alors, ça, tu fais quoi maintenant, hein? Et en fait, mon agente m'avait dit, mais fais-toi plaisir, fais-toi un vrai truc. Et en fait, j'achète des choses. Enfin, le dernier achat que j'ai fait, c'est un nouveau robinet pour l'évier de la cuisine parce que ça fuyait. Et je me suis dit, ah oui, je pourrais acheté ce robinet-là à 25 euros, mais en fait, il a l'air vraiment... Et j'ai pris un robinet.
Beau robinet.
Ouais, il est pas... Ouais, franchement, voilà, c'est un beau robinet. Mais donc, ça reste un achat pas foufou non plus. C'est un robinet pour l'évier de la cuisine, tu vois.
Parce que tu l'as pris en cuivre, un peu vintage.
Alors non, c'est même pas ça, c'est parce qu'il est plus pratique, c'est une bonne marque, le truc va durer 15 ans.
Résistant, ouais. D'accord, ok.
Ah non, c'est vraiment pas foufou.
Oui, c'est pas... Est-ce que toi, tu dépenses ton argent dans de la déco, dans ta maison
Alors, j'adore la déco.
Ouais.
Je pense toujours quand même le côté pratique. Non, mais je crois que je m'appelle Lecoq, c'est les paysans bretons, mais je crois qu'au fond, il y a une espèce d'atavisme. Là, par exemple, je vais acheter une nouvelle table, mais je dis oui, mais il faut que ce soit une table pratique pour faire les dîners, pour faire les devoirs, etc.
Qu'elle soit multifonction.
Voilà.
Et l'esthétique passe en second.
C'est un peu, il faut trouver le juste milieu entre les deux.
Et les cadeaux, tu fais beaucoup de cadeaux à tes enfants?
Ouais, trop. Et donc ça, je me suis calmée. Non, mais je leur ai annoncé un jour, j'ai dit stop. Ça suffit. En fait, c'est pas possible. C'est pas la vie, c'est pas Noël tous les jours. Donc, on a eu une discussion là-dessus et je leur ai expliqué. Et qu'à un moment, c'était pas bien.
C'était trop.
Et c'est compliqué d'avoir des enfants qui, du coup, sont pas dans la même classe sociale que moi. Moi, j'ai quand même vraiment. J'ai grandi avec une mère célibataire qui bossait dans le social. Donc voilà, c'était.
Tu veux dire, tes enfants sont plus bourgeois que toi?
Ils sont plus bourgeois que moi, ouais. Et je trouve, c'est un peu compliqué parce que très vite, on a le discours des parents qui font oui, mais enfin, tu ne te rends pas compte, moi, de mon temps, tu vois. Non, j'avais pas une orange à Noël non plus, faut pas exagérer.
Tu les forces à finir leur assiette?
Ça, j'ai trop souffert sur la bouffe. Non, puis ça, j'ai vraiment ça, un truc, genre. La bouffe, j'ai compris que faut rien dire.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tu manges pas. Rien.
Ouais,
pas faire
privé.
De commentaires, sinon voilà.
Ouais.
Ça fait des troubles alimentaires plus tard.
Ouais, bien sûr.
Mais donc, moi, j'ai pas. Ça me fait hyper plaisir d'offrir des trucs aux gens. En fait, je crois que c'est vraiment là-dedans, c'est mon kiff.
Parce que donc, t'as quand même écrit un livre sur Balzac. Moi, je suis une grande, grande fan de Balzac. J'adore la comédie humaine. J'ai beaucoup lu. J'ai lu sa biographie par Stéphane Zweig. Et vraiment, je suis fan du personnage. Et alors, c'est grand, grand, grand flambeur. Et c'est vrai que c'est quand même plus romantique comme ça que le radin. Bon, il y a peut-être un entre-deux, mais je dois avouer que, tu verras, je te poserai les questions du questionnaire de Proust à la fin de notre entretien. Et je demande quel est le pire défaut. Les gens associent le pire défaut à la radinerie.
Ok.
Et en tout cas, moi, vraiment, c'est vraiment un truc où j'avoue que je suis assez sensible à ça, à la générosité et à la radinerie. Mais ça peut être un motif de, pas rupture, mais en tout cas de désamour. Si je découvre qu'un mec est radin. Et ça pose problème aussi en amitié, notamment avec tes amis riches. Mais j'ai pas encore osé établir de contrat ou leur dire sincèrement. Mais c'est vrai qu'un ami radin, pour moi, même s'il est... Ça va venir ternir tout ce que je pense de lui. Puis le trouver intelligent, drôle, cultivé, qu'on a de super discussions sur les films. Mais si en sortant de l'UGCD Hall pour aller dîner, je sens qu'il veut pas m'inviter alors qu'il est codeur en banque d'assurance héritier... Je me dis, mais quand même. Ou même s'il aime pas se payer des belles choses alors qu'il en a les sous. Tu vois, j'associe ça à un truc terrible, quoi. D'emmagasiner des sous toute ta vie, je peux pas m'empêcher de juger ça très sévèrement. J'ai des amis qui étaient très riches, elle, avocate d'affaires et lui, ingénieur. Et ils avaient fait un anniversaire où ils avaient mis quelques paquets de chips. Et ensuite, par contre, il fallait aller payer ses consos au bar. Alors que pareil, ils avaient hérité, mais eux, ils vivaient dans un appartement d'un immeuble qui appartenait à sa famille à elle.
C'est fou.
Ouais.
Alors que ouais, moi c'est vraiment le plaisir de pouvoir offrir, enfin, de pas avoir pu le faire pendant tellement longtemps, je pense aussi, et du coup d'avoir dépendu des autres, ça me fait tellement plaisir, quoi. Mmh. Ça me fait bien plus, et vraiment, quand j'ai gagné de l'argent, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir offrir aux gens? Ça a été ma première question. Mais après, je sais pas, est-ce que ça serait un motif? Je vois pas de copain à moi qui soit, ou de copine qui soit vraiment dans la radinerie, mais est-ce qu'on peut, ça dépend si on peut en plaisanter.
Ouais.
Tu vois, si on peut dire genre waouh, toi t'as vraiment des oursins dans les poches et faire des blagues dessus.
Ouais. Bah alors si, alors ce qui
si c'est tabou, c'est horrible, tu vois, si c'est le truc genre que tout le monde remarque et personne n'ose faire de remarques.
Moi, ce que j'aime bien, c'est les radins qui le savent. C'est-à-dire que j'ai l'un de mes frères par alliance qui est radin, qui le sait. Il le dit, il est radin, il est très économe. Et résultat, d'ailleurs, on se faisait un petit goûter hier. Et il est venu où chacun devait apporter des pâtisseries, des jus avec un paquet de chips entamé. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas acheté pour l'occasion. Il a pris un paquet de chips chez lui et il l'a ramené. Mais après, il en rit, il assume. Mais à côté de ça, avec son frère, ils avaient fait des cadeaux qui étaient choux et qui étaient adorables. Donc il y a un peu d'attitude peut-être là-dedans, mais bon, quand même, il l'a fait, quoi.
Ah ouais, mais c'est...
C'est fou, hein.
Oui, mais c'était à la limite de d'être mal poli, quoi.
Bah ouais, oui, c'est choquant. C'est choquant, mais alors lui il se dit bon bah si j'ai envie de grignoter des chips, c'est ouvert, c'est chez moi, mais ouais bien sûr, moi je je trouve ça pas
Mais en plus c'est un truc qui se travaille, tu vois. Ouais. Enfin, je pense que si on te fait des remarques dessus et des vannes, au bout d'un moment tu te dis bon, même si ça m'arrache le cœur de payer le café de l'autre, je vais le faire pour me faire violence et montrer que j'en suis capable.
Mais c'est toujours encore une discussion compliquée. Moi je sais que c'était récemment, cet été, je suis partie à Los Angeles. Et puis j'ai une nana qui m'écrit, qui me dit on était en colo ensemble, tu veux qu'on aille dîner? Et puis bon, je sais pas pourquoi j'ai dit oui, j'ai dit, ok, pourquoi pas. Bon, bref, je me retrouve avec cette nana qu'en fait que je connais pas et qui elle me suit en fait sur les réseaux et qui écoute. Donc en fait, qui elle me dit ah, mais tu sais, et qui me parle comme si on se connaissait. Je lui dis, mais dis-moi qui tu es en fait, parce que moi je ne te connais pas. Puis bref, je vois que en fait le restaurant qu'elle a choisi est assez cher et qu'elle commande entrée, plat, dessert, vin, etc. Et tout. Et je me dis, oula, en plus déjà je passe pas une soirée de ouf en fait.
Elle ramène,
et en plus ça va me coûter un bras. Elle ramène une pote à elle et donc elle recommande et tout. Et le pire, Titiou, c'est que mon plat mettait du temps à arriver. Donc moi j'avais fait bien attention, j'avais dit je prendrais ce plat et une carafe d'eau. Et elles avaient commandé plein de trucs et mon plat mettait du temps à arriver. Elles disaient mais mange. Et j'avais vraiment faim et ça mettait du temps. Donc je me mets à grignoter un peu dans toutes les assiettes qu'elles ont prises en me disant « Eh merde, ça va me coûter $100 ».
Bah oui, parce qu'après vous allez partager.
Exactement.
Mais ça c'est tout c'est le drame des vacances entre potes. Mais ça c'est un vrai sujet.
Ouais.
Le tricount, etc. Mais
en même temps,
ces applis ont sauvé, je pense, pas mal d'amitiés quand même.
Et tellement de VJF.
Ouais.
Tellement de VJF. Pareil, je me souviens d'un VJF, le tricount. Et même, en effet, c'était pareil. Elles étaient vraiment blindées de thunes. Et au-delà du fait qu'elles étaient blindées de thunes, on n'avait pas exactement les mêmes sujets de dépenses. C'est-à-dire que moi, j'avais considéré que je claquerais 500, 600, 700 euros max pour ce week-end de VJF et pas plus. Et ça paraissait déjà énorme. Et je voyais dans la manière de choisir les lieux où on irait bruncher que ça me coûterait plus. Et j'étais la chieuse qui était la mode. Bah non, par contre, je suis désolée, je ne peux pas. Et elles avaient été un peu putes, les copines de la mariée, parce qu'elles l'avaient dit devant la mariée. C'était une discussion qu'on avait, tu vois. Si. Mais comme quoi, c'est un sujet douloureux, hein. Je sais plus, c'était...
Mais moi, jamais mes amis me feraient ça.
Mais c'était pas des amis, c'était les amis de la mariée. Ça. En fait, moi, j'aimais la mariée et j'aimais pas ses copines. La mariée, c'était une amie d'enfance. Et ses copines, clairement, c'est pas un milieu spécialement que je fréquente. Et je me souviens, elles avaient choisi un resto au bord de la plage, un truc hyper bling. Et devant la mariée, elles me font « T'en fais pas, Rosa, hein, celui-là, on le mettra pas sur le tricount. »
Oh là là. Tu t'étais pas fait des copines, hein?
Non, c'était pas des copines. J'étais même allée pleurer dans les toilettes. Ah, c'était horrible! C'était horrible. Je m'étais sentie pauvre. Elle m'avait humiliée,
Elle t'avait humiliée, c'est pas juste de se sentir pauvre.
Elle m'avait humiliée, ouais. Toi, tu te souviens d'un jour particulièrement où la misère t'a fait souffrir ? Enfin, moi, c'était pas la misère à ce moment-là.
Bah, je sais pas, il y a eu toute l'adolescence où, évidemment, il y avait tous les trucs de marque que je pouvais pas avoir.
Ouais.
Donc ça, c'était terrible.
Ah, ouais, bien sûr, au collège.
Ouais, ouais.
Ouais.
Mais ça, j'ai même fait un truc, les Reebok que j'avais pas pu avoir en classe de 5e, ouais. Je les ai achetés à 30 ans.
Ah,
voilà.
En vengeant.
Ouais, ça, voilà.
Ouais.
Et qui, en fait, coûtait d'ailleurs pas si cher que ça.
Non.
Mais c'est comme quand tu demandes, pendant très longtemps, j'ai cru qu'une Barbie, ça coûtait 1000 francs. J'en étais convaincue puisque ma mère me disait, non, mais les Barbies, tu peux en avoir qu'une.
Ah,
à Noël.
Ouais.
C'était vraiment... Je dis, donc, une Barbie, c'est très, très cher. Ça doit être 1000 francs, peut-être même 10 000 francs. Et un jour, je ne sais pas, où j'étais adulte et je suis passée dans un rayon et je me suis dit, tiens, je n'ai jamais regardé combien ça coûte une Barbie.
Ah.
J'ai fait, what ?
Oui,
j'aurais pu quand même en avoir deux.
Mais t'as raison, les marques à l'adolescence, dans les années 90, il y avait vraiment en plus la culture
les
de la marque.
Les chevilles, les Nike, il y avait tous les trucs, il fallait avoir le Bomber.
Ouais.
Enfin, il y avait vraiment une panoplie.
Lacoste.
Ouais. Donc voilà, mais après, je sais que ça, j'en ai souffert, tu vois, quand j'étais au collège, parce que j'étais dans un collège de classe sociale un peu élevée, en tout cas au-dessus de moi.
Ouais.
Donc les gens avaient des choses que je ne pouvais pas me payer.
C'est ça.
Et après, donc c'était un peu pareil, ma mère était dans un... On vivait dans le 15e arrondissement alors qu'on n'avait pas du tout les moyens de vivre dans le 15e. Et après, on a eu un HLM, donc on a changé. Et je me suis retrouvée en classe avec des gens qui avaient les mêmes revenus financiers que mes parents.
Oui.
Et là, tout allait très bien et je n'ai plus... Enfin, tu vois, il y avait un truc genre, ah bah oui, on
c'est
est tous...
équilibré, ouais.
Ouais.
Toi, t'as pas mal dénoncé... notamment Instagram et la mise en scène d'un bonheur, j'ai
ouais.
vu. Ouais.
Ouais, ouais, ça c'était... Mais parce que je suis très très vieille. Alors, j'ai connu les débuts d'Internet. Et dans les débuts d'Internet, mademoiselle, et là, ce qu'on mettait en scène, c'était la loose. En fait, Internet, c'était vraiment... C'était le truc des gens qui n'avaient pas d'amis. Et donc, tu étais sur Internet et tu racontais les pires trucs qui t'étaient arrivés, les trucs les plus humiliants avec une espèce de délectation. Et donc, tu avais vraiment ce truc. Bah, c'était un truc de nerd, quoi. Et quand est arrivé Instagram, même... Facebook au début, où je disais, ah ouais, donc maintenant on est sur mettre en scène comment ma vie est géniale, c'est-à-dire exactement l'opposé de ce qu'Internet était 10 ans avant. C'était fascinant comment ça s'est transformé.
Oui, parce que toi, ton blog, c'était un journal intime ou au contraire, tu racontais aussi voilà, des anecdotes de loose.
De loose, bah ouais, bien sûr. C'était complètement des anecdotes de loose. D'ailleurs, j'ai arrêté le blog quand la loose s'est arrêtée, tu vois. Je dis, bon, bah ça y est, c'est bon, tout va mieux. Mais j'avais une vraie... Enfin, je sais pas, j'ai toujours aimé les gens qui arrivent et qui te disent « Putain, j'ai fait encore un truc merdique » et qui te racontent ça. Ces gens m'intéressent beaucoup plus que ceux qui viennent te dire « Ah, j'ai encore réussi quelque chose, j'ai la win et tout. » Et Balzac, tu vois.
Mais oui.
Pourquoi Balzac m'intéressait autant ? Parce que ses échecs. Donc, les gens qui échouent et qui le racontent m'intéressent beaucoup plus que ceux qui veulent présenter que leur succès.
Toi, c'est quoi ton pire échec ?
Mon pire échec, c'est une bonne question. Alors maintenant, j'arrive à vivre de mon écriture, donc ça, c'est quand même...
Je
suis tellement fière que, tu vois, que...
Un concours, une école que tu désirais ?
Ah ouais, j'ai quand même passé le CAPES de lettres modernes, et j'étais admissible à l'oral, et à l'oral en littérature, j'ai eu 1. J'ai eu un, j'étais certaine, j'avais cartonné le truc, j'en étais sûre et tout. C'était en plus, je sais plus, c'était un texte, limite c'était un texte de Simone de Beauvoir. Enfin vraiment genre l'autrice que je maîtrisais à fond par cœur, enfin voilà.
Ouais.
J'ai eu un, ça veut dire que vraiment la meuf elle m'a détestée quoi.
Ouais, elle a pas supporté, c'est pas ton travail, c'est toi. Ouais, c'est toi humainement, c'est quitté quoi.
Là, il y avait un truc
de physique.
je sais pas.
Les rousses peut-être.
j'ai eu un. Donc ça c'était une belle, et en même temps quand j'ai eu déjà c'était drôle de découvrir ça.
Bah oui, c'est trop.
Et puis surtout, j'ai eu un tel soulagement de me dire ah ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment un signe, je ne serais pas prof.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Et alors Simone de Beauvoir, donc t'as toujours été comme ça, activiste, féministe ?
Eh bah écoute, ma mère était féministe, donc j'ai toujours grandi là-dedans. Et moi, le plus tôt, le choc a été dans l'autre sens de quand j'ai grandi. Donc ma mère était dans le truc limite misandre. Elle trouvait que les petits garçons, ça s'agitait dans tous les sens, qu'ils n'arrivaient pas à se concentrer et tout, alors que les filles étaient Parfait. Un peu plus intelligente, quoi,
ah,
en
oui.
fait.
Ah oui, 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 oui. oui.
Ouais,
elle ah, était... Ma mère m'a toujours dit ça. Les femmes sont plus intelligentes que les
bah,
hommes.
Voilà, ma mère était un peu sur cette ligne-là. Ouais. Et donc, quand je suis rentrée dans le monde réel, et j'ai découvert que c'était pas du tout l'opinion générale, j'étais très étonnée. Je fais ah ouais, ah bon, ah, 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 bah, ouais. Pourquoi lui, vous l'écoutez et pas moi? Je comprends pas. Et donc, il a fallu un petit temps d'adaptation. Mais du coup, ouais, j'ai baigné là-dedans. Enfin,
t'as baigné là-dedans, et c'est ensuite l'épreuve de ton milieu professionnel, le journalisme. Par exemple, les femmes battues. Comment t'as décidé que ça allait devenir l'un des... Ça a été un sujet très fort pour toi.
Ouais, mais en fait, tu vois, t'es mon premier roman, Les Morues. Il paraît en 2011. Et un des sujets, c'est les violences sexuelles et c'est le viol. Et je voulais raconter, enfin, je voulais que mon héroïne, ce soit pas le sujet. Elle a été victime d'un viol et ça n'est pas le sujet. Mmh. Et elle est plein d'autres choses autres que cette histoire-là. Donc tout ça, ça a été important. Et ouais, les homicides conjugaux, les féminicides, j'ai travaillé dessus comme journaliste en 2016-2017.
Ouais, et t'étais très précurseuse parce que donc tu fais partie de celles qui ont dit voilà qu'on pouvait plus appeler ça un crime passionnel.
Ouais.
Ce
ouais.
qui est hyper important, ça n'a bah, ça pas changé la loi au final même, les appellations dans les textes
ça, ce que ça a changé plutôt, c'est ça a mis, mais après je ne suis pas la seule, on était vraiment plusieurs, à sortir le sujet de la case fait divers. En fait, c'est que vraiment, pendant longtemps, c'était dans les faits divers. Et en fait, on ne prenait pas, on avait les chiffres en national, mais on n'y faisait pas attention. Et donc là, l'idée était de dire, en fait, non, si tu prends ça, plus ça, plus ça, plus ça, en fait, cette addition, ça veut dire qu'il y a un fait de société et que la France a un problème de violence, qui est un problème massif, qui est un problème de violence sexuelle et d'homicides conjugaux. Donc, prendre du recul et prendre la carte de la France et dire voilà, on a un problème de féminicide. Ouais, ça, on était. C'était nouveau. Ça avait peut-être été fait déjà dans les années 80, mais là, en tout cas, on a relancé ça.
Et ensuite, sur les oubliés de l'histoire, tu te souviens du point de départ ?
Ouais, je me souviens parce que c'est mon éditrice sur Balzac qui m'avait dit. Et à qui je racontais des trucs d'histoire et tout, qui m'avait dit, mais tu veux pas faire un livre là-dessus? Et j'avais dit, oh, pff, non, tout le monde le sait, hein, franchement. L'histoire des femmes, excuse-moi, c'est pas nouveau quand même. et j'avais vérifié quand même sur Internet et je m'étais rendu compte que le livre que j'avais en tête, ben, en fait, il n'existait pas.
Mais non, bien sûr que
un
non.
Un truc hyper abordable, très grand ouais. public, qui fasse du paléolithique à nos jours,
ouais.
en moins de 3000 pages, ça n'avait pas été fait.
Et qu'on ne connaissait pas, et que c'est vrai qu'en le lisant, tu vois, je me dis, c'est vrai que la femme préhistorique dans la grotte, bah, j'avais pas imaginé qu'elle puisse chasser, quoi. C'est vraiment en lisant ton livre que je me dis, ah non, mais attendez, enfin voilà, ça s'est construit, mais c'est le regard, et ouais, non, c'est. Ou même dans ton livre sur l'argent, sur la grande escroqueuse.
Oui, mais le fait que le mot escroc n'existe pas
oui.
au féminin, c'est quand même dingue.
Ben oui.
Mais parce que, en fait, à l'époque, l'histoire que je raconte, c'est qu'au 19e siècle, les femmes n'ont plus aucun droit économique, les femmes mariées n'ont aucun droit, à cause de Napoléon, comme d'habitude. Et donc, en fait, on se dit que quelqu'un qui, pour monter une escroquerie, il faut avoir des droits économiques, donc les femmes ne pourraient pas monter une escroquerie. Et en fait, la plus grande escroquerie de l'époque, ça va être une femme. Thérèse Imbert, et j'adore cette histoire, c'est qu'elle a acheté un château qui est le château de la Star
Academy.
Voilà, tous rejoints.
Mais Thérèse Imbert, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas déjà eu au moins 50 films et 32 séries sur elle ?
On l'a oublié, il y a eu.
Ouais.
Il y a eu, je raconte que c'est Simone Signoret qui joue Thérèse Imbert, je crois.
Voilà.
Et donc il y a eu des téléfilms dans les années 70-80.
Ouais, ouais.
Mais
depuis,
il faut refaire un truc, bien sûr.
Ouais, non, bien sûr. Bah, c'est vrai, Pénélope Bagieu, elle aide aussi là-dessus avec les culottés. Ça a vraiment, moi, le nombre de personnages déculottés où je me suis dit, bah alors, et maintenant, Temple Grandin, voilà, je connais. Et encore, quand j'en parle, les gens ne savent pas. Et je leur dis, mais la souffrance animale, c'est Temple Grandin. Et donc, je me dis, bah, il faut encore d'autres films, il faut encore d'autres représentations, quoi.
Oui, et puis surtout, il faut réussir à les inscrire dans le patrimoine commun, dans cette espèce de culture générale, parce qu'en fait, on les a déjà redécouvertes plein de fois, ces femmes, et on les réoublie sans arrêt. Et donc, pour qu'il n'y ait pas à refaire les culottés dans 20 ans, en fait, il faut qu'à un moment, moi, c'est mon grand cheval de bataille, mais il faut que ça passe par l'école, il faut qu'on les apprenne, on apprenne leur vie, leur existence, leurs œuvres à l'école.
Et des statues aussi, pourquoi pas. Que les statues, c'est que des statues de mecs aussi.
Oui, c'est vrai, mais ça ne suffit pas les statues parce que, par exemple, moi, dans Les Grandes Oubliées, il y a une femme dont je raconte l'histoire que j'adore, qui est Émilienne Moreau-Évrard, qui est une femme qui s'est battue pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, qui est hyper importante. Et Émilienne, personne ne la connaît. Et quand ils ont refait à Paris la place de la République, ils ont décidé d'appeler l'esplanade Émilienne Moreau-Évrard. Donc, on donne son nom, c'est super. Mais en vrai, déjà, personne ne sait que ça s'appelle comme ça. Et surtout, quand les parents passent avec leurs enfants, et que si les enfants demandent c'était qui Émilienne Moreau-Évrard, ben, personne n'est capable de répondre, en fait. Mmh. Donc, tu peux avoir. Alors que quand on passe à Voltaire, tout le monde fait ah, bah, tu sais, c'était un philosophe, gnagnagna. Donc, je dis à un moment, il faut que ces noms résonnent, qu'on sache qui c'est. Moi, c'est comme les arrêts de tram, pareil à Paris, il y a plein d'arrêts. Oui, il y a des noms de femmes, mais en vrai. C'est
pas assez.
Mais
oui,
on ne sait pas qui c'est.
Et oui, Rosa Parks, il faut les bien expliquer, celle qui ne s'est pas assise dans le métro. Rosa Luxembourg, il y en a pas, ça c'est à Berlin.
Mais il y en a plein en a pas, où, ouais. Où en fait, tu vois, ouais. Ça... Donc à un moment, il faut que l'école fasse sa part.
Attends, une dernière question, avant de passer au questionnaire de Proust. Est-ce que tu dirais que le romantisme est l'ennemi du féminisme, notamment sur la question de l'argent ?
Alors j'ai toujours un doute sur le romantisme lequel, parce qu'on met tellement de choses dans le mot romantisme... mais sur le côté affectif, amoureux, etc. Oui, et en même temps, il y a un truc très simple, c'est qu'en fait, l'amour, on a du mal à quantifier, à, voilà. En fait, l'argent, ça se compte hyper facilement. Donc, faire ses comptes, en fait, en amour, on peut faire ses comptes financiers. C'est simple, avec un stylo et une feuille de papier, et c'est fait. Et c'est fait en 20 minutes, c'est réglé, et c'est bon, quoi. On peut passer à autre chose. C'est plus simple à comptabiliser que la charge mentale.
Ouais. Je passe au petit questionnaire de Proust.
Ah ouais, t'as tes dossiers et tout.
Eh oui, tout sur le cloud, heureusement, parce que, comme t'as vu, je suis un peu tête en l'air et casse tout.
Petit trouble de l'attention, non ?
Ah, j'aimerais bien, ça m'ajoute. Je suis, j'ai en effet une tendance à oublier les choses ou à les casser. Mais c'est toujours symptomatique d'un état émotionnel ou moi je suis assez romantique, résultat à chaque fois que je tombe à nouveau amoureuse d'un mec, je perds je suis nue, j'ai plus rien, j'ai plus mes papiers. Là, c'est même plus l'argent, c'est je perds
moi,
tout.
Moi j'avais un problème comme ça, je perdais tout le temps ma pièce d'identité.
Mais à chaque fois que tu rencontrais quelqu'un ?
Mais j'avais un truc récurrent. En fait, je l'ai perdu tellement que j'ai été convoquée par la police qui pensait que je faisais du trafic de pièces d'identité. Et on m'a interdit, j'ai eu une interdiction, je n'avais pas le droit d'en refaire de nouvelles. Donc j'ai un passeport, mais je n'ai pas de pièces d'identité. Et, wow, et c'était un moment où je voyais un psy, j'allais dire, je crois qu'il y a un truc avec l'identité, je ne sais pas qui je suis, il y a un truc.
Mais ouais, ça raconte complètement quelque chose.
Ouais, c'était fou. Mais j'avais genre 24 ans, tu vois, comme ça.
Bah, c'est parce que t'avais besoin de t'effacer pour te reconstruire
je
tout le temps
pas
en permanence.
J'étais vraiment dans un truc, je suis perdue en fait. Je me suis perdue moi-même. J'adore l'idée de la page blanche, la BD de Boulet et Pénélope. Mais c'est, pour moi, ouais, c'est vraiment cette période-là. Rigolo parce que ça prenait donc cette forme de perdre ma carte d'identité.
Moi, j'étais tombée amoureuse et au moment où j'étais tombée amoureuse, j'ai perdu l'équilibre. Donc au moment où je tombe amoureuse, je suis physiquement tombée. J'étais par terre, c'est pas très rigolo, hein. Quand même, mais bon, ça c'est plus la passion que les comptes, mais normalement quand la passion s'éteint, c'est bien ensuite de pouvoir faire les comptes.
Oui, et surtout d'avoir anticipé les choses.
La qualité que tu préfères chez un homme ?
L'humour, ouais, rigoler c'est quand même la base de tout.
La qualité que tu préfères chez une femme ?
Ah bah pareil, l'humour, ça va être les mêmes, parce que moi je suis non-genrée, madame.
Le principal trait de ton caractère ?
L'obsession, je crois que j'ai un peu obsessionnel en fait. Je crois que c'est mais ce qui est bien, enfin j'en ai fait, tu vois, une qualité du coup.
Bah oui, une carrière même. C'est quand t'es sur un sujet, t'es en boucle.
Je suis à fond sur le sujet, ouais.
Tu sais déjà quel sera ton prochain sujet ?
Alors je sais que je me suis dit les essais féministes, j'ai fait. Ça y est, c'est bon. J'ai apporté ce que je pouvais. Je n'ai plus rien à dire. Je stoppe. En fait, j'ai envie de fiction. Ah. Le réel, stop. Ouais. Donc, j'ai envie de romans, de scénarios, de voilà.
Et en plus, tu as fait des essais du côté du bien. Enfin, comment dire, de la justice, du progrès. Revenir à la fiction, ça veut dire peut-être aller creuser des choses plus amorales ou obscures.
Ouais. Complètement. Exactement. Ouais. C'est tout à fait ça que j'ai envie de faire, ouais.
On a hâte de lire. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis ?
Chez mes amis, je vais pas répondre encore le fait qu'on rigole ensemble. justement, leur capacité à se dévaloriser. Non, c'est pas le bon mot. À raconter leurs échecs, leurs loses, etc. Moi, c'est vraiment ça. Et nos meilleures discussions, ça n'est que ça. Mais surtout, c'est sur la sexualité, sur la vie professionnelle, surtout, c'est raconter la sexualité, raconter les pets chats. Ouais. Parce que ça a été notre passion pendant très longtemps, quand
même. Mais oui, le Katasutra, voilà. Les fails du cul.
Voilà. Mon tout premier livre avec une de mes meilleures amies, Nadia Dam, c'était La vérité crue sur la vie sexuelle des filles. Et c'était tous les ratés de la sexualité.
Ouais, c'est ça. Qui te caractérise en fait aussi, Titiou, c'est la sincérité. C'est pour ça que tu t'attaques à des sujets tabous ou à ce qui a été caché. C'est que t'as... Et oui, et la vulnérabilité en fait partie.
Ouais.
Mais t'es quand même sur Instagram, contradiction.
Oui, mais j'essaye justement de montrer quand je fais des sorties avec les enfants. Ouais. Genre, on a fait une super sortie, mais je prends une photo où l'enfant fait une crise pour dire, regardez, en vrai, la sortie finit comme ça, par un enfant qui hurle que c'est la pire journée de sa vie.
Ça serait génial, un Instagram avec que des enfants qui pleurent.
Mais ça a existé des Tumblr à l'époque.
Ah ouais.
Oui, il y avait un père avait fait ça américain. C'était raison pour laquelle mon fils pleure, et son fils avait genre 2 ans.
Incroyable.
Il y avait une photo du gamin en train de pleurer, et ouais. En dessous... j'ai un de lui proposer de reprendre du lait. Et le gamin s'est mis à hurler.
Ah, c'est génial. Ton principal défaut ?
Mon principal défaut, alors je ne vais pas répondre à l'obsession, vous avez le truc un peu facile. Mon principal défaut, je suis maladroite dans les rapports sociaux.
Ah ouais.
En fait, ouais, je peux être hyper maladroite et il y a un vrai truc, un peu de trouble du spectre autistique où il y a des situations sociales où je vais pas forcément bien les décrypter. Je vais dire un truc en pensant que c'est sympa et en fait ça va être mal perçu et c'était pas délicat de dire ça, etc. Et ça c'est terrible parce que je m'en rends pas tout de suite compte. Après je m'en veux vachement et tout. Mais ça s'apprend.
Ouais, mais encore une fois c'est ta sincérité, non ?
Je sais pas si c'est de la sincérité. Non, c'est vraiment de je lis
sans
pas bien.
Filtre. Ah ouais. Ouais, ce qui se passe en face.
Ouais, il y a un truc où je. Ouais, je suis pas très subtile. Je suis un peu un tractopelle, tu vois.
Ouais, ouais, je vois. Parfois, c'est chiant en même temps, le masque social en permanence.
Ouais, mais les gens qui ont vraiment une habileté sociale, une espèce d'aisance, ça me fascine.
Oui, mais moi, ça peut me dégoûter aussi. Tu sais, les courtisans.
Ouais, ouais.
Maintenant,
ouais,
je sais que c'est un red flag, tu vois. J'ai su voir que je me suis observée moi-même et je me suis dit, mais attends, comment ça te faisait que cette personne hyper toxique était toujours dans ma vie ? Et puis je me suis rendu compte, mais c'est parce qu'elle te flattait, Rosa.
Ouais.
Et maintenant, je sais que quand quelqu'un me flatte, je fais, oula, attention, en fait. Qu'est-ce que ça cache ? Ton occupation préférée ?
Mon occupation préférée, c'est quoi mon occupation préférée ?
À part voir tes enfants pleurer.
Non, mais alors c'est quand même principalement être allongée sur mon canapé à réfléchir à un truc.
Ah.
Et ça, c'est trop bien. Bah, réfléchir à qu'est-ce que je vais faire avec les enfants le week-end prochain de vraiment super cool, qui serait complètement magique, mais où je ne vais pas leur faire des cadeaux parce que ce n'est pas non plus tous les jours Noël. Ouais, c'est ça. Enfin, j'aime bien. En fait, pendant longtemps, je me culpabilisais d'avoir des moments où je ne faisais rien.
Mm-hmm.
Et en fait, je me dis, d'abord, j'en ai besoin. Et en vrai, c'est comme ça que j'ai des idées. C'est en restant allongée à juste laisser mon cerveau divaguer.
T'as un bon canapé dans ton salon ?
Ouais, je l'ai hyper bien choisi.
Ça, c'est important.
Super. Ouais. On peut dormir dessus et tout, il est très bien.
Waouh. J'ai pas de bon canapé. J'ai un bon lit, mais j'ai pris un petit canapé joli, petit, pas cher et pas bien, dans lequel qui me sert de table, sur lequel je range des trucs. Mais un jour, j'aurai un beau canapé. Et je penserai à toi, Titiou. Ton idée du bonheur ?
Mon idée du bonheur, bon, je sais pas, rigoler, bien manger, du sexe, enfin, des choses, somme toute, classiques.
Quel serait ton plus grand malheur ?
Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Bah, c'est
pas obligé de répondre.
Ouais, non, ce serait un truc qui concerne. Ah non, avec les enfants, ce serait horrible. Non, non.
Où aimerais-tu vivre ?
Eh ben, je suis très très heureuse là où je suis, vraiment. Et en plus, j'adore ma maison. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'autre endroit
proche de Paris sans être à Paris.
Ouais, c'est Montreuil. Hein. Ah, on sait que j'habite Montreuil, donc voilà. Mais c'est vraiment.
Je voulais pas le dire à ta place.
Mon quartier ouais. De Montreuil, je l'aime tellement.
Bah ouais, je suis à Bagnolet, je comprends, hein. C'est trop bien.
Ouais.
Ce que tu détestes par-dessus tout ?
La béchamel.
C'est vrai que c'est dégueu.
C'est vraiment dégueulasse. Voilà. Ce sera ma réponse. Oui, la béchamel. La guerre, non. La béchamel.
C'est bien plus original. Comment aimerais-tu mourir ?
Somme toute de façon classique, donc plutôt âgée dans mon sommeil. Voilà. Pas en trop mauvaise santé non plus.
Est-ce que tu as une devise favorite ?
J'ai un ensemble de trucs.
De petits mantras ?
Ouais, ou de trucs de conseils de vie à moi-même que j'ai, machin. Et notamment, j'ai vraiment ce truc que je fais régulièrement de me dire « Ah, j'ai envie de dire non à cette proposition. Si j'étais un mec de 50 ans, qu'est-ce que je répondrais ?» Et en fait, un mec de 50 ans a plus facilement de se dire genre « J'ai envie de le faire ou j'ai pas envie de le faire. »
Ah ouais, t'as raison.
Et donc souvent, je demande à mon double de 50 ans genre «
Alors... » Ton double privilégié.
Voilà. Ah, c'est un bon... Voilà.
Et enfin, ton état d'esprit actuel ?
Eh bien, écoute, je suis hyper contente. Genre, en fait, je suis trop contente du livre et des premiers retours et tout, donc je suis un peu surexcitée.
Bah ouais, c'est génial. Merci pour ton livre, il est super, et pour toute ton œuvre. Merci, Titiou.
Merci à toi.
Et voilà, c'était Titiou Lecoq. N'hésitez pas à acheter son dernier livre, Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes. Et à lire également ses ouvrages précédents, écouter son podcast, Rends l'argent. Moi, j'ai adoré cette conversation. Quand Titiou dit, les séparations n'appauvrissent pas les femmes, elles rendent visibles des différences de revenus qui étaient préexistantes. C'est hyper intéressant. Enfin, je suis reconnaissante à Titiou d'avoir accepté que le cheminement de notre pensée nous mène naturellement de Kim Kardashian aux EVJF, à la loose revendiquée au début d'Internet, versus les images du bonheur sur Insta aujourd'hui. Ça m'a fait beaucoup de bien que Titiou dise qu'elle préfère les gens qui avouent ce qu'ils ratent plutôt que ceux qui mettent perpétuellement en scène leur réussite. Vivement un film sur Thérèse Imbert, en espérant que Titiou et moi et vous ne perdions pas trop nos papiers. Bisous. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast « @lesmecsquejeveuxken » sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.